39,9, bof, c'est juste une question de température. Salut, salut.
Salut. On est reparti pour une émission un peu spéciale cette fois, qu'on va introduire par une petite chanson d'un groupe qui s'appelle Sin Dios. On n'oubliera pas. Macron, on t'attend au tournant. Préparons le jour d'après. Organisons la suite. En manif dès que possible. On ne rentrera pas le 11 mai. Grève générale. Passé la stupeur et la paralysie des premières semaines de la crise sanitaire, cela fait maintenant quelques semaines que des mots d'ordre, des menaces ou des résistances à l'encontre du gouvernement se font écho au travers les réseaux sociaux, virtuellement, ou dans certains quartiers en acte. Ces messages, que j'ai lus juste avant, expriment vertement, souvent, le ras-le-bol des politiques libérales du gouvernement, mais aussi ils révèlent le mépris de classe de la part de l'État avec ses injonctions contradictoires du « restez chez vous » qui se complètent, pour les plus précaires, par « et en même temps, allez bosser ». De plus, ce sont souvent les mêmes qui subissent la troisième peine, celle de se faire verbaliser pour 10 minutes de balade en trop, une attestation mal remplie, etc. On voit aussi depuis quelque temps déjà des analyses montrant que l'instrumentalisation de cette crise à des fins de contrôle et de répression a plus à voir avec le totalitarisme qu'avec la fameuse santé publique. Et d'ailleurs, cette santé publique est, par ailleurs pour les dominants, est bien moins importante que la santé de la sacro-sainte économie. Que va devenir l'industrie du tourisme ? Enfin, beaucoup rappellent, et parmi les premiers les soignants et les soignantes, qu'hier, ils et elles étaient en manif pour l'hôpital public. Hier aussi, mais neutralisé aujourd'hui, c'était les gilets jaunes, les mouvements des retraites qui occupaient la rue. Cela étant dit, rappelons que la méfiance et l'anticipation ne sont pas l'unique apanage de la contestation. D'autres aussi préparent l'avenir. En première ligne, évidemment, il y a le gouvernement qui clame que les jours heureux, ceux de la démocratie libérale, reviendront. Ces jours-là qui ne furent pas heureux pour tout le monde. Les services de renseignement sont sur le qui-vive, en prévoyant que l'ultra-droite et ou l'ultra-gauche réagissent ou réagiront. On ne sait pas encore s'ils exagèrent pas un tout petit peu pour réclamer subtilement plus de moyens de contrôle, avoir les commandes de drones, etc. Et dans ceux qui organisent ou qui préparent l'après, il y a évidemment aussi le patronat, qui multiplie les annonces comme quoi faudra bien qu'on retourne bosser, qu'on accepte des sacrifices, etc. Et enfin, le secteur industriel, qui a toujours rechigné à baisser la cadence, espère bien, lui aussi, pouvoir faire tourner à plein régime ses petites machines. Dans ce contexte, où on peut imaginer que la suite du printemps sera chaude, pour prendre un peu de recul et se placer dans une perspective opposée à l'ultra-droite, il nous semblait intéressant de mettre un petit coup de projecteur sur un moment particulier de l'histoire de l'Espagne. Et pour reintroduire ça avec un son un peu moins pourri, je vais vous lire l'extrait de la quatrième de couve, accrochez-vous, du troisième tome d'une série de bouquins qui s'appelle « Les chemins du communisme libertaire en Espagne, 1868-1937 ». Et du coup, je vais lire la quatrième de couve de ce troisième tome qui a comme sous-titre « Enseignements ou nouveaux enseignements de la Révolution espagnole, de juillet 36 à septembre 37 ». Le 20 juillet 1936, le coup d'État échoue dans une partie de l'Espagne du fait de la résistance de la population qui s'adonne aussitôt à la dépossession des possédants. En Catalogne, l'État est à terre et les plus grands patrons et propriétaires ont fui. Le mouvement ouvrier le plus radical et le mieux armé du camp républicain se retrouve maître de la situation. Pour autant, les leaders de la CNTFI n'appellent pas à la mise en route du communisme libertaire. Ils vont collectiviser le secteur productif sous l'égide de l'État non aboli, maintenir le salariat et inciter la classe ouvrière à s'adapter à l'organisation scientifique du travail. Simultanément, une partie de la militancia et de la base du mouvement s'engage dans une sortie plus radicale du capitalisme, notamment en Aragon. Cette minorité nombreuse, active, puissante, guidée par un idéal, continuait à travers l'histoire une lutte commencé au temps de Bakounine et de la Première Internationale. Ah oui, alors j'ai oublié de dire qui c'est qui avait écrit ces bouquins. Elle s'appelle Myrtille, elle se décrit comme gyménologue, et en fait on va écouter un petit bout d'une tchatche qu'elle avait fait il y a un moment déjà, qui parle justement de ce moment, ce petit moment, et ce petit lieu en Aragon, d'août 36 à août 37.
Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je signale que ça fait une petite dizaine d'années que dans le cadre d'un petit groupe d'affinités appelé les gyménologues, on fouille, on refouille, on se penche très profond dans l'histoire de ce processus révolutionnaire qu'a connu l'Espagne des années 30, hein, parce que le phénomène ce qui démarre en juillet 36 a été amené par un travail très très profond des anarchistes et des anarcho-syndicalistes dans ce pays. Et il faut avoir en tête qu'effectivement, ce qui s'est déployé là-bas, c'est un peu unique en son genre sur le plan historique. C'est un peu le seul pays où l'anarchisme s'est autant déployé, avec plusieurs facettes. L'anarchisme, ce n'est pas un concept figé et bien cerné, ça a beaucoup de composantes à l'intérieur. Et ce qui nous a intéressé, c'est de comprendre pourquoi ce mouvement qui s'est résolument posé comme anticapitaliste a réussi à se déployer et à engendrer pendant au moins un an, on va dire, et dans certaines régions d'Espagne, pas partout et pas de la même manière, une sorte de socialisation, un début de socialisation très important et qui, par sa durée et sa qualité, sont uniques sur le plan historique. Voilà, c'est la question qui nous turlupine depuis plus de 10 ans, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça, par où c'est passé, et comment, et par qui s'est engagé et comment. Voilà. Donc je vais resserrer juste aujourd'hui sur l'Aragon, et sachant aussi que chaque région d'Espagne, il s'est passé des choses différentes aussi dans chaque région d'Espagne pour un tas de raisons, un substrat économique, géographique, sociologique et politique différent. Donc tout ce que je vous décris sur l'Aragon n'est pas forcément applicable à tout le reste des régions de l'Espagne restées républicaines après juillet 36. Voilà. Alors, j'ai intitulé cette petite communication « De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins, un début de sortie du capitalisme en Aragon ». C'est bien un début, c'est un processus que je vais vous décrire un petit peu dans ces premiers mois. Et je me suis basée essentiellement le plus possible sur des récits de protagonistes de l'époque ou de gens qui ont écrit pendant et après ce phénomène-là. C'est très important aussi de serrer au plus près ce que les gens disent qu'ils ont fait et ce qu'ils ont compris de ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Essayer de ne pas trop se camper sur les travaux d'histoire ou les travaux qui ne sont pas négligés. Mais il est important de reprendre les termes utilisés par les gens de l'époque. Ça me semble très très significatif. On peut passer à côté de beaucoup de choses si on reprend des termes de sociologues, d'historiens ou même de militants anarchistes de bonne foi, mais qui ont tendance aussi à enjoliver, un peu catégoriser le phénomène. Nous, c'est ce qu'on a appris chemin faisant, c'est qu'il faut être au plus près de ce qui s'est dit et fait. Ensuite, on met notre point de vue, notre interprétation, ne la cache pas. Hein, voilà. Donc, je vais citer un des mecs dans un village aragonais, Pina de Ebro, qui s'appelle José Borras, qui a dit « Les paysans aragonais accomplirent pour leur compte une révolution sur le terrain économique et ils firent en sorte que le pouvoir de décision reste au niveau local. Ils s'attachèrent en particulier à supprimer l'argent et le salaire individuel, non seulement par choix économique, mais par sens de la dignité. » Voilà, ça vous campe, je pense, un petit peu le niveau d'exigence que ces gens-là avaient en tête à ce moment-là. Donc je vous bombarde de quelques chiffres quand même. Il faut savoir que l'Espagne des années 30, c'est un pays de 24 millions d'habitants, dont la moitié ont des activités strictement rurales. Hein, donc la moitié des actifs. Les actifs, c'est 10 à 11 millions d'habitants. Donc la moitié de ces actifs ont des activités rurales, essentiellement. Donc c'est un pays, encore en 36, essentiellement rural, avec des poches industrielles en Catalogne, au Pays Basque, etc. Mais c'est un pays où le capitalisme s'est très peu déployé. Au niveau de la terre, il faut savoir qu'il y a 50 000 obreros qui possèdent 50% du sol. 700 000 paysans aisés en possèdent 35. 1 million de paysans possèdent 11% du sol. 1 250 000 petits paysans survivent à peine sur des petits lopins de terre de 10 hectares. Et ça représente 2% des terres. Et ça, c'est ce qu'on appelle le minifundio. Hein, c'est la petite propriété qui fait que des gens arrivent à peu près à nourrir leur famille, mais guère plus. Et il suffit d'une d'une crise économique ou, d'une sécheresse pour qu'ils basculent dans le salariat. Donc la hantise de ces 2 millions de paysans, c'est de tomber dans le salariat, c'est-à-dire aller se vendre, de ne plus pouvoir vivre de leurs petits lopins et d'aller se vendre, vendre leurs bras chez des grands céréaliers de Castille. Et il y a 2 millions d'ouvriers agricoles, soit 40% de la population rurale qui n'a absolument rien et qui se vend à droite à gauche dans les villages et dans les lieux où on embauche si on veut bien. La plupart des terres étaient pauvres et très peu irriguées. Et dans les régions du sud, là au niveau de la répartition dans les régions où domine le latifundio, c'est-à-dire les grandes propriétés de plus de 100 hectares, il y avait 65% de journaliers, 12% ou 13% de fermiers et 21% de propriétaires. Et dans la plus grosse partie de l'Espagne, y compris l'Aragon dont je vais parler, dans les régions de petites, donc 10 hectares et moyennes propriétés, entre 10 et 100 hectares, il y avait 33% de journaliers, 14% de fermiers et 52% de propriétaires. Donc il faut savoir ça aussi, que ça va jouer hein, dans l'expérimentation, dans la socialisation, dans les réticences, évidemment le nombre de propriétaires ou de sans terre. Chaque village peut avoir une configuration différente à ce niveau-là et ça va jouer dans le processus révolutionnaire. Donc d'août 36 à août 37, une grande partie de l'Aragon rural, hein, je ne vais pas rappeler les dates des phénomènes. Hein, là, il y a un coup d'État du 19 juillet 36, donc il y a un processus révolutionnaire qui démarre à partir de ce coup d'État. Donc l'Aragon, vous verrez de très très loin, cette province est partagée, la ligne au milieu, c'est la ligne de front. Donc c'est une partie de l'Aragon, la moitié orientale de l'Aragon, l'Aragon essentiellement rural, qui rentre dans un processus révolutionnaire. L'autre partie occidentale est tenue par et les villes essentiellement, hein, Huesca, Belchite, Saragosse et Teruel, elles restent du côté, qu'on va dire, franquiste. Voilà. Donc la ligne de front ne va pas bouger pendant plus d'un an. Les colonnes anarchistes qui viennent de Barcelone, anarchistes et anarcho-syndicalistes, qui viennent de Barcelone immédiatement, fin juillet, début août, protègent ce qui va se passer à l'arrière du front, évidemment. Hein. Ils encouragent absolument le démarrage du communisme libertaire. Donc c'est une situation particulièrement privilégiée de cette province qui va connaître ce processus dont je vais vous parler. Mais avant, il me semble important de rappeler ce que c'est que ce concept de communisme libertaire, d'où il sort et pourquoi il s'est tellement propagé en Espagne. Donc c'est au sein de l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, hein, en 1876-1880, qui est conçu par des rescapés de la Commune de Paris, hein, des gens comme Élisée Reclus, un tas de personnes aidées par Kropotkine. C'est des gens qui tirent les leçons du désastre qui vient de se passer, qui ne se découragent pas, et qui décide de reconcevoir un processus de socialisation en s'opposant à celui qui était forgé avant par les socialistes et les marxistes. Donc, je vous résume rapidement les points centraux du projet communiste libertaire tel qu'il a émergé en 1880. Abolition immédiate de toute forme d'État, de propriété, de salariat et de valeur d'échange. Appropriation collective et immédiate de toutes les richesses et leur distribution égalitaire. Appropriation et mise en commun de tous les moyens de production, y compris la terre. Le travail sera réalisé collectivement, et là, c'est une phrase très importante, chacun travaille selon ses forces, et les richesses produites sont réparties selon les besoins de chacun. Ça, c'est en rupture avec tout ce que le mouvement ouvrier avait proposé avant. Avant, il était question que chacun reçoive en fonction du travail qu'il avait effectué. C'est-à-dire qu'on... De cette manière-là, le salariat, le principe central des rapports socio-capitalistes, perdurait. Donc les communalistes, les communistes libertaires de cette époque-là disent non, 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 il faut arrêter avec ça. On en finit avec cette idée qu'il faut quantifier le travail des hommes et qu'ils recevront ce dont ils ont besoin en fonction de cela. On élimine cette question, c'est à chacun selon ses besoins. Donc ça, c'est un cap extrêmement important qui s'est produit à ce moment-là. Identité d'intérêt entre les travailleurs des villes et ceux des champs. Ça aussi, les anarchistes sont à peu près les premiers à avoir attribué autant d'importance à la paysannerie et aux gens des terres et des villages qu'au monde ouvrier des villes et des industries. Donc, ces travailleurs des villes et des champs doivent s'organiser au niveau du quartier et de la commune. Ils sont indépendants, mais fédérés les uns aux autres. Et dernier point, les communes représentent à la fois le contexte et le contenu du processus révolutionnaire. Voilà. Alors, ce projet fut repris par toutes les sections de l'AIT. En Espagne, il fut repris un peu plus tard qu'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans ces raisons-là. Mais en 1888, en gros, il y a les communistes libertaires espagnols qui s'organisent par petits groupes à l'intérieur des sections ouvrières, mais à côté aussi. Et ce qu'on appelle la CNT, je pense que vous connaissez un petit peu, la Confédération nationale du travail, syndicat qui deviendra anarcho-syndicaliste un peu plus tard, né en 1910. Et il n'adoptera ce projet communiste libertaire qu'en 1919, lors de son deuxième congrès. Donc ça deviendra officiellement la proposition, le projet révolutionnaire de cette confédération à partir de 1919. Alors, le premier programme communiste libertaire en Espagne sera publié, ça c'est les petits folletos, les petites brochures qui circulaient beaucoup à cette époque-là. Il y avait beaucoup de gens analphabétisés en Espagne, mais tout un système, un réseau d'auto-éducation chez les anarchistes va favoriser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et dans tous les milieux ouvriers ou paysans, les militants lisaient aux autres. Il y avait des lectures collectives de textes. Dans cette petite brochure de Isaac Puente, qui est un théoricien anarchiste, ça va être publié à plus de 100 000 exemplaires sur 2-3 ans, réédité constamment et lu énormément par la base anarchiste et anarcho-syndicaliste. Donc c'est ça qui va vraiment lancer les bases théoriques, en tout cas alimenter le désir de communisme libertaire en Espagne. Voilà, c'est une petite brochure qui circulait à l'époque. Puente va essayer dans cette brochure-là d'harmoniser deux façons de voir la sortie du capitalisme et le processus révolutionnaire. Il y a ce qu'on appelle les syndicalistes industrialistes, c'est un terme qui a été utilisé à l'époque, hein, et les communalistes ruralistes qui vont s'affronter sur ce projet-là. Alors, je vais vous lire plusieurs extraits de leur débat, échange et polémique. Mais avant tout, je signale qu'un auteur qui s'appelle Michael Seidman, qui a réfléchi beaucoup à cette question, a conclu ceci. À l'intérieur du mouvement ouvrier, les anarchistes qui pensaient que le syndicat devait devenir le fondement de la future société communiste libertaire gagnèrent du terrain par rapport à ceux qui tenaient une position plus individualiste ou ceux qui considéraient que les fondations de la nouvelle société seraient les communes rurales. Les anarcho-syndicalistes voyaient dans le syndicat la base organisationnelle du communisme libertaire, et leur position reflétait l'acceptation croissante de l'industrialisation parmi les militants libertaires. Voilà, ce qu'il faut avoir en tête, en arrière-plan dans tout ça, c'est comment le capitalisme se déploie dans ce pays, enfin, dans tous les pays, mais là, en Espagne, dans le cas d'Espagne. Le fait qu'il se fixe essentiellement, c'est surtout un capitalisme étranger qui se fixe en Catalogne, et en Catalogne, un mouvement ouvrier assez puissant va se construire et se dresser contre ce capitalisme-là, mais sur des modalités bien particulières, hein, de l'ouvrier d'industrie qui s'organise en syndicat, alors que dans une autre vaste région comme l'Andalousie, c'est où domine le latifundio dont j'ai parlé tout à l'heure, dans des travailleurs sans terre qui vendent leurs bras, etc. Ces gens-là, eux, vont plutôt s'intéresser au projet communiste rural. Ruraliste, comme on disait aussi à l'époque. Donc il va y avoir deux formes d'anticapitalisme, deux formes d'anarcho-syndicalisme et deux façons de poser le projet communiste libertaire. Il faut aussi avoir ça en tête. Alors je vais vous lire quelques échanges entre ces deux courants. Je vais expliquer ce qu'on entend par industrialiste. Alors ceux qui prônent de faire durer qui considèrent que le syndicat est un instrument de lutte contre le capitalisme, mais qu'il devra lui succéder à la chute du capitalisme, et organiser les rapports sociaux, les nouveaux rapports sociaux. Donc ces syndicalistes-là estimaient qu'il fallait, je cite, dépasser l'infantilisme du communisme libertaire basé sur les prétendues communes libres et indépendantes. Bon, c'est pour vous dire que le débat est sérieux. Quoi. C'est pas juste une tendance, c'est vraiment un courant. Je les cite. Le syndicat d'industrie est la meilleure forme d'organisation possible, non seulement comme instrument de résistance face au capitalisme, mais aussi comme valeur pour supplanter ce dernier dans l'hégémonie et la direction de la société. Vous remarquerez que là, ces anarchistes s'inscrivent là dans ce qui se passait dans le reste du mouvement ouvrier de l'époque. Hein. C'est le syndicat, l'industrie, l'ouvrier, l'industrie, le producteur qui sont les acteurs principaux du processus révolutionnaire. Une autre citation, « À la concentration du capitalisme doit correspondre celle de la force du prolétariat. Le syndicalisme est industrialiste dans la mesure où il se voit obligé d'adapter ses comportements aux coordonnées technologiques et économiques du système auquel il veut succéder. » Ça aussi, c'est extrêmement important. On voit que de faire face au capitalisme à l'intérieur de la structure que lui propose, c'est-à-dire l'usine et le rapport salarial, amène des gens qui veulent le combattre, eux-mêmes, à dire eux-mêmes, il faut copier ces modalités pour mieux le combattre. Donc, quand le capitalisme se concentre, le syndicat dit, il faut se concentrer nous aussi. Donc, il faut créer des fédérations d'industrie. Et c'est en cela que, dans les débats entre les deux courants, on les traite d'industrialistes. Pour eux, il faut s'immerger dans ce contexte-là pour mieux le combattre. Alors que d'autres estiment au contraire, il ne faut pas rentrer du tout dans le processus capitaliste, en aucune manière. Il faut le fuir comme la peste et le détruire complètement, ne pas y rentrer. Et ça, ça vient de la part de gens qui sont dans un pays qui ont encore connu de très près un monde pré-capitaliste. Hein. D'autres rapports sociaux sont toujours à l'œuvre. Pour eux, ils voient très bien les dégâts immédiats, complets, intenses que va produire le capitalisme. Il n'est pas question d'y rentrer. Alors pour eux, je les cite, il fallait résister au rouage de l'économie bourgeoise. Quand nous aurons gagné, le syndicalisme aura terminé sa mission, puisque disparaîtra le régime du salariat qui lui a donné vie. Nous ne pouvons nous baser sur la structure économique bourgeoise, ni nous adapter à elle, ni aller à sa remorque. En tant que révolutionnaires, nous devons subvertir ses valeurs. Tout ça, c'est écrit dans les années 20-30. Hein. Un autre dit, nous proposons au monde ouvrier le retour à un point de départ perdu, la commune libre. Et à partir de cette base naturelle, on peut discuter le naturel, mais bon. À partir de cette base naturelle, nous structurerons la vie nouvelle à partir d'une répartition des instruments mécaniques réellement utiles, en reliant le développement agricole des communes à ses dérivés industriels en fonction des besoins locaux précis. C'est-à-dire que l'industrialisation sera strictement restreinte aux produits qui vont avec une vie simplifiée, où les besoins de l'esprit ont davantage d'espace et de temps pour se cultiver. Voilà, ça aussi c'est extrêmement important. Ils ne sont pas, pas de machines, pas d'industrie, non. On veut bien travailler moins, on veut bien passer à d'autres activités dans l'existence, donc on veut bien recourir à des machines, à une technologie, mais toujours en gardant en tête, en fonction des besoins. On ne dépasse pas ce critère-là. On ne va pas outrepasser, se laisser fasciner, comme selon eux les industrialistes, par la machinerie industrielle, etc. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a déjà des questions de fond qui sont posées dans ces époques-là. Hein. C'est les années 20-30 où les débats se développent le plus. Alors Isaac Puente va essayer de concilier les deux courants et faire avancer le processus. Donc dans son programme minimal, le municipio, le municipio, donc c'est la structure municipale de chaque village représente l'élément fondamental pour l'organisation à la campagne, où, je cite, la réalisation du communisme libertaire est plus simple à réaliser car la commune est une institution enracinée et très ancienne. Tandis qu'en ville, les ouvriers de l'industrie se serviront de la fédération locale de la CNT, de la première structure du syndicat anarcho-syndicaliste, et de la Fédération nationale d'industrie comme structure de base et de la production. Et il dit, c'est l'organisation vers laquelle vont spontanément les producteurs. Voilà, il essaie de faire cohabiter tout ça. Et dans son programme à lui, il y a l'abolition de la propriété privée, bien évidemment, de l'État et de toute autorité. Toute la souveraineté revient à l'Assemblée générale. Le travail est obligatoire pour tous les membres, ça c'était les formules de l'époque. Mais on abolit complètement le salariat, plus personne n'exploitera personne. Et ceux qui ne travaillent pas, les enfants, les anciens, les malades, seront nourris par le collectif. Le salaire est remplacé par un carnet de producteurs ou de rationnement, selon le principe, à chacun selon ses besoins. Les échanges, et là c'est un point très important, les échanges de produits nécessaires entre localités se font sans équivalence de valeur, car ils sont tous équivalents en soi, puisqu'ils ne sont plus alignés sur le salaire, le temps de travail des hommes. Hein, il n'y a plus de comptabilité du temps de travail des hommes. Donc, chaque produit ne recèle pas de la valeur travail qui a été accumulée. Donc, chaque produit aucun produit n'a plus de valeur, quel que soit le travail qu'ils ont demandé ou l'utilité qu'ils représentent. La notion de valeur est étrangère à l'économie libertaire. Il n'y a donc aucune raison de la mesurer avec de la monnaie. Voilà, eux, ils font le tour des rapports socio-capitalistes et des catégories, le travail, la valeur, l'argent. Tout ce processus-là, ils voient bien le rapport entre les trois. Donc, ils estiment qu'on se débarrasse du paquet complet. Et voilà. Et la formule de la nouvelle justice distributive ne se résoudra équitablement que par l'abondance, obtenue notamment en rationnant ce qui est rare. Bon, après, ces gens-là sont conscients que c'est des principes généraux, qu'on va essayer de les appliquer, mais ils disent bien qu'après, chaque commune, chaque collectif adapte tout ça selon comment ils voient les choses. Il y a pas de, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas posé de manière dogmatique. C'est plusieurs fois signalé. Donc, après cette diffusion, cette circulation, cette lecture de cette petite brochure, il va y avoir le 4e congrès de la CNT en mai 36 qui va adopter une motion qui va reprendre les points principaux de Isaac Puente. Et là, ça va être un énorme retentissement. 4 mois avant le début de la guerre civile, il y a des gens, plein de militants, des tribuns, des orateurs qui circulent dans tous les villages et qui repropagent, qui lancent la discussion sur le communisme libertaire. Donc, il faut se rendre compte que le 19 juillet, en Catalogne, dans une partie de l'Aragon, l'État tombe. En Catalogne, il va tomber. Il est annihilé, mais il ne va pas tomber. Et tandis qu'en Aragon, il n'y a plus d'État du tout. Il n'y a plus de structure d'État. Donc, c'est des gens qui ont le chemin tout ouvert pour expérimenter immédiatement, c'est ce qu'ils vont faire. Alors, très rapidement, il y a quand même une tension interne à tout ce mouvement, parce que autant en Catalogne, où il y a un gouvernement régional qui s'appelle la Generalitat, dont on en parle encore beaucoup aujourd'hui, ces gens-là qui sont à terre, en gros, livrent les clés de la ville aux anarchistes en disant ouais, « Vous avez gagné, vous avez résisté à ce coup d'État, bravo. » Mais si on peut encore servir, on est là. Et les anarchistes de la CNT et de la FAI estiment que bon, on peut jouer encore cette carte-là avec qu'on appelle les circonstances. Ils disent que la guerre n'est pas terminée, que les démocraties pourraient aider peut-être l'Espagne, enfin bref, ils tentent de faire baisser le niveau, l'aspect révolutionnaire et radical de ce qui se passe, et ils croient bon de maintenir l'État. Donc ça a créé des tensions internes assez importantes, et en Aragon, le comité régional d'Aragon de la CNT est carrément en dissidence, puisque lui il s'engage dans le communisme libertaire, et estime qu'il n'y a pas de temps à perdre. Donc, il faut savoir comment, ce qui se passe en Aragon, aussi dans quel contexte ils sont par rapport au reste du mouvement.